Mardi 30 juin, François-Xavier Bieuville, nouveau préfet de la Loire, s'est rendu dans les locaux de SOS Violence Conjugale 42. Loin d'une simple visite de cette structure d'aide aux victimes et d'accompagnement des auteurs, la rencontre s'est rapidement transformée en une séance de travail pour avancer sur ces questions et agir concrètement dans le quotidien des personnes qui font appel à SOS Violence Conjugale 42.
Ça représente un sujet très simple, c'est que le président de la République, quand il confie un territoire à un préfet, il lui confie une population qu'il faut protéger. Et je vais même aller un peu plus loin, il lui confie une population générale. Et la population générale, ça a une signification extrêmement forte pour un préfet. C'est toute la population. Et par conséquent, tous les sujets qui portent atteinte à l'intégrité du corps social, tous les sujets qui portent atteinte à travers ces violences, quelles qu'elles soient, et les violences conjugales sont malheureusement un phénomène trop connu, trop bien connu, et pour ça, c'est pour la raison pour laquelle il faut lutter, est un sujet qui rentre directement dans la préoccupation et dans le champ de la responsabilité du préfet. Donc venir dans une association comme celle-là, qui est une association exemplaire, que l'État finance en grande partie, avec les outils de financement qui sont ceux de la dette, est non pas normal, mais une obligation. Enfin, moi, je suis là avec des personnes qui sont en réalité des collaborateurs du service public et qui travaillent avec leur raison d'être et leur manière de faire pour mettre en place des processus qui permettent de lutter. Moi, ce que j'ai échangé aujourd'hui avec ces associations, c'est deux choses importantes. La première, c'est le traitement de l'auteur. Et généralement de monsieur, parce que c'est dans 90% des cas, 95% des cas, monsieur qui est l'auteur des faits. Il n'y a pas de raison que madame quitte le lieu de l'habitation avec les enfants et que monsieur y reste. Ça devrait être l'inverse. Et donc il faut que nous travaillions à cette question-là. Trouver des tiers-lieux qui permettent d'écarter monsieur du foyer conjugal et de laisser madame avec les enfants à l'intérieur du foyer, parce que en réalité c'est une double peine pour madame. Et pour les enfants encore plus. Vous les sortez d'un cadre affectif, dans un cadre connu, etc. Donc il faut qu'on cherche des solutions, et je suis prêt à m'engager à travailler à cela avec l'association et la dette. Et sans doute les intercommunalités.
Alors ici, avec les discussions que vous avez eues avec les coprésidentes de l'association, la directrice, les collaborateurs, c'est aussi, pourquoi pas, engager une réflexion sociologique, réfléchir pourquoi, qu'est-ce qui amène à ces phénomènes de violence, qu'est-ce qu'on y met dans tout ça, quelles sont vos idées?
Depuis 25 ans, on est devenu meilleur que l'on ne l'était il y a 25 ans. 25 ans, c'était quelque chose qu'on cachait sous le tapis. On n'en parlait pas des violences conjugales. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet dont on parle assez facilement et sur lequel on agit plutôt bien d'ailleurs. Tous les acteurs sont alignés sur le sujet. La justice, bien sûr, avec les parquets, les préfets, le monde associatif, les intercos, tout le monde est aligné. Mais le problème, c'est qu'on est sur le dessus de l'iceberg. En réalité, on traite le sujet ex poste, une fois que les faits se sont produits. Et ex poste, on les traite bien d'ailleurs. On sait protéger, on sait enjoindre, on sait imposer, on sait travailler avec l'ensemble des acteurs pour répondre à cela. La problématique, c'est ex ante. Comment fait-on pour mieux comprendre et mieux appréhender le phénomène? Et donc, c'est la question que je me pose et que je me suis très souvent posée. C'est dispose-t-on d'une analyse qui permette de mieux prévenir et de mieux identifier les mécanismes de la violence, si tant est qu'on puisse les identifier pleinement. Et donc il faut y travailler scientifiquement. On a des bases de données, on a beaucoup de données détenues par différents organismes, l'éducation nationale, les forces de l'ordre, la justice. On a beaucoup d'éléments qui permettent d'appréhender le sujet. Il faut qu'on ait un peu plus de méthodes pour avoir une démarche scientifique pour mieux comprendre et dégager des lignes forces permettant de mieux anticiper et de mieux prévenir.
Aussi, autre sujet traité, le fait que les victimes n'aient pas à répéter sans cesse leur calvaire, que ces témoignages et leur parcours de vie ne soient pas répétés, puissent être finalement disponibles selon les services, qu'il y ait une simplification aussi de l'accompagnement.
Oui, c'est important parce qu'on réalise pas à quel point le fait de devoir réitérer son récit, le fait de raconter ce qui s'est passé est une souffrance supplémentaire. Une fois que vous l'avez raconté, c'est déjà très difficile pour une victime parce qu'il y a un très fort sentiment de culpabilité. En réalité, on est dans les tréfonds de l'âme, on sonde les reins et les cœurs dans ces questions-là. Et donc, pour une victime, c'est très très dur de raconter son histoire, parce que c'est quand même le conjoint qu'elle a certainement aimé à un moment dans sa vie. Donc, en fait, vous dénoncez votre propre amour, mais c'est très difficile, il faut le comprendre. Et par conséquent, le récit est compliqué à faire. Et dans ce cadre-là, moi, j'avais travaillé quelques années sur une sorte de fiche navette qui permettait de faire en sorte que la victime ne raconte qu'une fois, une seule fois, une bonne fois pour toutes son récit, et qu'ensuite ce récit puisse naviguer naturellement entre les différents acteurs pour qu'on puisse éviter de lui imposer d'avoir réitéré à chaque fois la relation des faits. Je pense que ça serait utile d'y travailler de nouveau, parce que ça permettrait effectivement de simplifier, ça permettrait d'alléger le poids psychologique pour la victime, et puis sans doute d'être plus efficace, je pense.
Aujourd'hui, 30 juin, vous annoncez à l'association SES Violence Conjugale 42 que vous êtes disposé à établir un calendrier pour avancer sur des projets, etc. Ce calendrier-là, comment va-t-il être dessiné? Vous attendez les propositions, vous voulez ensuite être moteur aussi de réunions et pourquoi pas de discussions, d'assises, comme vous l'avez cité tout à l'heure?
Moi, je crois beaucoup à l'initiative. Vous savez, j'ai une phrase que vous m'entendrez souvent citer, c'est que l'initiative est individuelle et la réussite est collective. On est dans un cadre avec beaucoup d'acteurs très différents, des acteurs publics, des acteurs privés, des associations, des institutions. Donc il faut que l'État, sa fonction, c'est de créer les conditions. J'ai souvent cette métaphore du théâtre. Il y a des planches, il y a des acteurs, il y a un texte, il y a des décors, puis il y a un metteur en scène. Le metteur en scène, il crée les conditions de la pièce. Mais il n'en est pas l'acteur principal. Il faut toujours assembler les bonnes volontés pour mettre en place quelque chose. Donc l'État, sa responsabilité, c'est de créer les conditions de tout ça. Donc moi, je m'engage pour créer les conditions du diagnostic, de l'échange, des positions éventuellement des financeurs. Voilà, moi je pense qu'il serait intéressant à un moment ou à un autre que nous ayons un peu une démarche de conférence ou d'assises qui permettent de réunir l'ensemble des acteurs pour créer les conditions de ce qui permettra d'avancer encore plus et mieux sur ces problématiques. Une conviction personnelle est bien évidemment, sinon je ne le ferais pas avec autant de précision, d'engagement et de volonté. Donc il y a à la fois une conviction, mais il y a aussi une construction. J'ai envie de vous dire que la construction, elle précède la conviction. La construction, c'est la responsabilité qui est la mienne, qui est de considérer que les violences conjugales sont un fléau pour la société, qui entraîne tout un ensemble de dommages et qui trouble l'ordre public que l'on confie à un préfet. Et encore une fois, la population générale. Moi, je me dois de protéger une population générale. Et donc d'avoir une partie de cette population qui est à qui on porte atteinte dans sa chair fait partie de mes responsabilités. Donc c'est ce que j'appelle la construction. Et ensuite, la conviction qui est la mienne, c'est que la violence, elle n'est pas verticale, elle n'est pas en silo. La violence, elle a des effets collatéraux. Elle s'horizontalise d'une certaine façon. Quand un enfant voit son père battre sa mère, vous imprimez chez un enfant une image qu'il sera peut-être lui un jour malheureusement victime d'une propre reproduction ou victime d'autre chose. Et donc, traiter la violence dans ce cadre-là, c'est une façon de traiter d'autres violences immédiates et puis d'autres violences futures. Et donc, par conséquent, c'est, vous l'avez compris, une construction du fait de mon métier, qui est celui de la protection d'une population générale, mais c'est aussi une conviction par rapport à ces phénomènes de violence qui doivent être enrayés. C'est pas acceptable d'avoir une femme qui subisse des violences de cette nature-là, de la même façon que c'est pas acceptable qu'un enfant en soit une victime collatérale. Donc cette conviction-là, elle est quasiment sociétale. Donc moi, je m'engage à titre personnel, si vous voulez entendre le terme, mais je m'engage surtout dans ce que je peux apporter, à la fois de volonté, d'énergie, de rassemblement, et puis mon autorité. Et ce que j'aime souvent à dire, c'est que moi, j'ai une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, j'ai différents outils, parmi lesquels l'autorité. Et l'autorité de l'État, c'est l'autorité en soi n'est pas une fin. Je veux dire, L'autorité n'a jamais été une fin en soi. Elle n'a aucun intérêt si elle ne sert à rien. Donc moi, je la mets au service du territoire pour faire avancer dans les domaines qui me paraissent moins importants, par conviction et par construction. Je la mets au service pour faire avancer les sujets. Et c'est un outil qui, effectivement, peut peser dans la balance.